Eh ben, écoutez, on va continuer dans la postmodernité grâce au billet numérique de Xavier Delaporte, tandis que mes autres camarades s'installent, Mathieu Conquet et Zoé Sfez. Pourquoi élection postmoderne? Pourquoi élection numérique? Bah, tout simplement, Xavier, parce que la première campagne de Barack Obama avait déjà frappé par le rôle que le numérique y avait tenu, notamment pour organiser les militants. Et la seconde a confirmé la nécessité d'une stratégie numérique dans les deux camps, mais aujourd'hui, quand même, quelque chose a changé.
Oui, c'est le New York Times, un petit journal dont on ne parle pas assez, qui l'a
raconté
il y a quelques jours
dans
une enquête passionnante, en allant fouiller dans Facebook et en décrivant les évolutions toutes récentes du paysage informationnel dessiné par cette plateforme. Le journaliste John Herman y décrit l'apparition ces derniers mois d'une foule de contenus très très partisans, très agressif et très partagé par les habitants de Facebook. Des contenus émanant de médias qui ont pour nom Occupy Democrats, The Angry Patriots, US Chronicle, Addicting Info et des centaines d'autres. Des médias qui partagent une caractéristique. Ils sont fabriqués dans et pour Facebook. Ils n'existent pas ailleurs. Ils font un usage très savant des statistiques que Facebook met à disposition de tout utilisateur et qui sont complétées, qu'ils complètent par d'autres outils de métriques pour atteindre le plus d'internautes possible. Leur but n'est pas, comme pour les médias traditionnels, d'attirer les internautes vers des articles, mais de faire en sorte que le plus grand nombre de Facebookiens partagent ces liens. Pour ce faire, ils se sont affranchis de toute prévention, aucun souci pour la prudence, la mesure, la véracité de l'information, ils s'en moquent, ils n'ont pour règle que celle de Facebook. Alors comment ils s'y prennent? Eh bien d'abord ils privilégient ce qui choque, la soi-disant folie d'Hillary Clinton, le terrorisme, l'immigration, ils copient et diffusent la moindre rumeur complotiste, ils fabriquent des mèmes, c'est-à-dire des sortes de motifs que les internautes vont utiliser, détourner, partager, ça peut être par exemple une vidéo sur la mèche de Trump ou un rire forcé d'Hillary Clinton, ils usent à outrance de la vidéo, de schémas lisibles en un seul coup d'œil, de couleurs qui flashent. Ils incitent les internautes à partager systématiquement et ils n'hésitent pas, évidemment, à payer Facebook pour la mise en avant de leur contenu. Ce qui est fou, c'est que ces nouveaux médias ne poursuivent pas tous un but politique. Bien souvent, il s'agit simplement d'attirer le chaland pour qu'ils cliquent vers un site bourré de publicités, des publicités qui rapportent beaucoup d'argent à ses propriétaires de sites. Et Rue 89 racontait la semaine dernière l'histoire très drôle d'une ville de Macédoine qui s'est spécialisée dans la création de sites pro-Trump qui rapportent donc beaucoup d'argent en racontant les pires horreurs au sujet d'Hillary Clinton. Il y a au moins 50 personnes dans la ville qui vivent de ça. Se mêle donc une propagande très sale à visée politique et une myriade d'acteurs qui n'ont des buts que mercantiles. Alors on pourrait se rassurer en disant que ça n'est pas grave, que ça n'est que dans Facebook, sauf que aux États-Unis, Facebook est devenu le principal lieu de la accès à l'information. Les chiffres et études à disposition amènent à penser que c'est là que se tient une grande part de la conversation politique aux États-Unis. Et dans cette conversation, ces pages font beaucoup de bruit, plus aujourd'hui que les médias journalistiques, si on additionne les chiffres de partage de tous ces contenus. Alors évidemment, la lecture de cette enquête pose de multiples questions. Quelle influence a tout cela sur le débat politique dans son ensemble? Dans quelle mesure cela peut-il influer sur un vote? À quel candidat cela profite-t-il? N'est-ce pas la violence de Trump qui, d'une certaine manière, permet l'apparition de ces contenus? Est-ce que tout cela ne profite pas en dernier recours à Facebook? Alors je suis évidemment incapable de répondre à ces questions qui sont toujours complexes, mais juste une chose. Pour avoir l'esquisse d'une réponse, il faudrait bien comprendre ce que signifie le fait de partager un contenu sur Facebook, à quel type d'engagement cela correspond vraiment. Et ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on partage parce qu'on y croit, parce qu'on est d'accord, ou parce qu'on trouve ça drôle, bête? N'est-il pas possible d'imaginer qu'une grande part des gens qui partagent ces contenus entretiennent avec eux le même rapport qu'on peut avoir avec une couverture de France Dimanche, par exemple? On ne sait pas. Le problème, c'est que c'est un phénomène qui a lieu pour la première fois et qu'on va devoir attendre novembre pour avoir une esquisse de réponse.
On va demander une réponse avant Hector Tobar, avant novembre.
J'ai deux fils qui ont 20 ans et 17 ans. Ils ne lisent jamais les journaux. Ils n'écoutent jamais NPR. Mais ils savent ce qui se passe dans le monde grâce à Facebook. Ils vont me dire, papa, j'ai vu quelque chose s'est passé en Syrie. Mais ils l'ont vu sur Facebook. Donc, c'est extrêmement important sur la façon d'avoir des informations aux États-Unis et ça change le paysage des médias. Et ce que cela fait, c'est que ça vous met dans un groupe où vous avez des gens qui pensent comme vous. Et donc, véritablement, ça a renforcé les opinions des gens.
Il faut voir malgré tout que sur Internet, les journaux sont très présents. Votre journal, le New York Times, dont on fait la pub depuis tout à l'heure, quand même, Rachel Donadio devrait y être heureuse. Ce journal a 1,5 million d'abonnés au site, ce qui est quand même énorme et absolument sans précédent dans l'histoire des médias numériques.
Oui, bon, parce que le paysage médiatique a changé beaucoup avec Facebook et tout ça, avec toutes les personnes qui lisent Facebook, ils trouvent les papiers à travers Facebook. Ça, pour nous, a changé un peu le marché. D'abord, on cherchait de vendre des publicités en disant on est une publication élite. Maintenant, on essaie de vendre des abonnements avec l'idée qu'on a un reach très grand, on a
un média global, pas seulement sur tous les supports,
mais millions et millions de personnes peuvent trouver notre site.
Oui, mais le New York Times avait fait un audit interne il y a 2 ans, dont la conclusion était de dire que, ok, par rapport aux autres journaux, ça marchait très bien, mais que par rapport justement à toutes ces espèces de sites et contenus fabriqués dans et pour les médias sociaux, le New York Times n'arrivait pas à les combattre.
Et pendant ces dernières 2 ans, on a fait plein de choses à ajuster la situation.